Bienvenue au Polysécur épisode spécial PME. Je suis avec Nicolas, Dominique et Cindy. Comment allez-vous?
Hello, bien et toi?
Hello, super bien.
Bien, toi? Bien aussi. Nous avons parlé dans un épisode précédent des certifications qui sont souvent exigées par les grandes entreprises pour faire affaire avec eux. Par ailleurs, si vous n'en avez pas, vous allez avoir le pire chemin, c'est-à-dire de répondre à des formulaires mystérieux et souvent épeurants à bien des égards. Enfin, je vais vous laisser commencer sur ce sujet-là.
J'ai toutes nos condoléances si vous devez arriver à ça, parce que même pour nous qui sommes dans le domaine, dès qu'un client nous montre ce formulaire-là, on a envie de changer de métier, fait que on va juste vous rassurer en termes de sentiments, c'est normal que vous trouviez pas ça drôle. C'est vraiment des formulaires complexes qui se ressemblent quasiment jamais, qui sont pas basés sur des références. Je vais laisser Dom en parler un petit peu, il en a administré beaucoup plus que je.
Ce qui me vient à l'esprit quand on parle des formulaires qui nous arrivent, je pense qu'il y en a deux. Il y a deux grandes familles. Il y a ceux qui sont orientés vente et qu'on doit remplir pour nos clients et on doit répondre à des questionnaires de sécurité. Et puis il y a l'autre, le deuxième, qui est les assurances. Typiquement, où on va avoir des questions sur le comment doit-on répondre à une formulaire d'assurance. Le premier pour la vente, théoriquement, un vendeur, il n'a pas le droit de dire non quand on lui pose des questions. Donc, c'est clair que quand on a des formulaires, on va être tenté à répondre à toutes les questions en essayant d'embellir le produit, d'embellir les différents angles, même si on sait qu'on ne sait pas. Puis là, on va être capable de mettre un oui, parfois peut-être même trop vite si on n'est pas. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, Nicolas ou Cindy.
Oui, c'est que même dans les appels d'offres du gouvernement ou autres, quand on ne peut pas vraiment parler avec le client, c'est sûr que c'est extrêmement tentant. Il y a des requis de sécurité et on n'est pas en train de vous dire que vous devriez mentir sur vos réponses. On parle juste de ce qu'on sait qui est la réalité. Il n'y aura personne qui pourra dire qu'il n'a jamais fait un oui, mais dans une RFP en n'ayant pas exactement le requis. La problématique, c'est souvent, ce n'est pas réaliste. Des fois, justement, le critère, il est trop évasif et qu'on peut répondre oui, mais oui, je n'ai peut-être pas exactement ça. Mais voici comment j'adresse ce problème. Puis tantôt, Nicolas, souvent, nous, on va être capable de lire l'intention derrière la client plus que le requis en tant que tel. Et pour vous donner une ordre d'idée avant qu'on dise qu'on est en train de dire aux gens de mentir sur leur sécurité, c'est que des fois, les critères sont absolument débiles. On a vu, je nommerai pas l'organisme qui avait ça. C'était un appel d'offres qui voulait un outil de scan de vulnérabilité. C'est pas un requis de sécurité, mais c'est un requis pareil. Et le scan devait, comme critère obligatoire, donner les vulnérabilités à venir. Si tu répondais non, tu étais out. Et tu ne pouvais pas parler avec le client. J'avais envie de leur demander, donnez-moi le produit qui gagne et qui a ça, et je vais investir toutes mes économies là-dedans. C'est pour ça qu'on parle un petit peu de des fois de critères qui sont, il y a des critères sécurité ou pas qui ont pas de sens. C'est que oui, des fois c'est tentant quand on se fait demander des choses qui ne font absolument aucun sens.
Ce qui est gênant dans les questionnaires, c'est surtout qu'il n'y a pas un même formalisme. Donc c'est pas les questionnaires qui se ressemblent. Donc il faut répondre. La question est des fois pas toujours très claire, comme tu l'as souligné, Cindy. Mais il faut pouvoir y répondre. Et encore une fois, on n'aime pas répondre non parce que ça peut être éliminatoire. Ça peut avoir des conséquences sur le fait de faire affaire ou pas. Et puis, je basculerai après sur la partie d'assurance ou de cyberassurance, hein, où dire non, c'est un peu compliqué. Et il faut comprendre la réelle intention à l'arrière de la question. Et c'est pas toujours évident. Et puis, même pour des experts en sécurité, il faut arriver à lire entre les petites lignes de la question pour répondre correctement. Et c'est là où est tout le défi.
Le manque d'adaptation, souvent la problématique, et là où justement les noms vont se poser comme question, c'est qu'il y a des questions, vous devriez juste répondre oui. Si vous dites non à chaque question de sécurité, remettez-vous en question quand même. Là. Il y a quand même des questions de sécurité de base, la mise en place du MFA, est-ce que vous avez des EDR, etc. On fera un podcast sur vraiment la base que vous devez avoir, on l'a déjà vu dans l'hygiène de vie. Donc si vous répondez non à tout, le problème, c'est peut-être pas le document, c'est ce qui est en place. Mais par exemple, on a déjà vu, les formulaires, c'est des one size fit all. Ils envoient le même formulaire à Desjardins qui vont l'envoyer à la compagnie de 5 personnes. C'est que, avez-vous un SOC, si c'est éliminatoire, dans une compagnie de 5 personnes, sauf vraiment rare, en particularité de cette compagnie-là, une compagnie de 5 ne devrait pas avoir un SOC. Mais là, genre, si je réponds non, je me fais disqualifier. Comment est-ce que j'ai de contourner la question? C'est plus à ces points-là qu'on Moi, je parle enfin, de dire oui, mais il faut que ce soit réaliste et que ce soit de la sécurité qui fasse du sens. Demander de l'over-security à des petites compagnies, c'est pas réaliste, ça disqualifie ben, les petits joueurs.
Et malheureusement, c'est pas 10 questions ou 8 questions. On pourrait prendre des cartes comme Essential 8 et puis il y a 8 questions. On pourrait prendre
Cybersécuritaire Canada.
Cybersécuritaire Canada, effectivement. Il y a un petit peu plus de questions, mais on est capable de répondre. Mais souvent, ben, les questionnaires sont montés pour pas correspondre à un cadre normatif. Donc, difficile de faire un mapping d'un client à un autre. Et puis, il y en a beaucoup. Alors, j'ai une petite cachette entre nous, j'ai déjà mis des noms de Pokémon dans un formulaire hein, et on a gagné. Donc voilà.
Je suis tellement pas surpris de ce commentaire-là. Genre, je m'attendais à rien de moins.
Donc voilà, ah, on peut jouer un peu. Bon, vous faites, ne faites pas ça, c'est pas bien.
C'est dangereux, c'est un risque, c'est de la gestion de risque.
C'est un risque, il faut vivre avec les conséquences si ça marche pas, mais bon, voilà. Donc, il y a des. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les gens, il y a ceux qui répondent aux questionnaires, mais il y a ceux qui doivent aussi les lire de l'autre côté. Et donc, je pense que c'est plaisant pour personne de répondre ces formulaires. Et parfois, l'enjeu reste quand même assez gros par rapport à un contrat qu'on pourrait perdre parce que on a mal interprété le questionnaire, mal interprété la demande, mal interprété la réponse avec un peu de flou. Puis encore une fois, il n'y a pas une vraie règle unanime pour pouvoir fonctionner. Et après, quand on répond, ben, c'est une sorte d'analyse de risque. Hein. On sait, quand on est dans une petite entreprise, on va peut-être répondre à un point, on va dire oui, on n'a pas tel type de surveillance, on n'a pas tel type de mise à jour sur nos composants. On sait que si on signe, il va falloir le premier tout doux, après avoir célébré le fait de signer le contrat, ben, il va falloir se mettre à jour et puis faire ça. Et ça peut être acceptable. Par contre, dans le cas d'une assurance, c'est pas le jour de l'incident qu'il faudra dire « Ah, on avait dit ça à l'assurance, il va falloir le faire. » Donc là, c'est un petit peu plus délicat dans le cadre des questionnaires d'assurance.
Ça devient un pari de « Est-ce qu'on va être capable de mettre les mesures en place avant que le prochain incident arrive ?» Et la nature même de l'incident, il est aléatoire et on sait jamais quand il va nous tomber dessus. Donc, c'est vraiment un coup de dé. Puis ça, c'est vraiment d'aimer jouer au casino beaucoup, de faire ce genre de choix-là qu'on ne recommande absolument pas parce que ça peut venir vous mordre le fait qu'il y a une ville en Ontario sur laquelle l'assureur a refusé de payer parce que le MFA n'était pas déployé. C'est un exemple assez frappant de ça. Et justement, ça nous rappelle que si on ne dit pas les vraies choses, et donc, de ressentir ou de voir ce que l'assureur veut s'assurer qu'on est en place pour atténuer le risque, parce que c'est ça que l'assureur veut vérifier. Mais si on ne met pas des mesures qui, pour lui, réduisent son risque, ben, il va refuser de payer. Puis là, on va se retrouver dans une situation qui est très compliquée parce qu'un incident, et ça, tu l'avais mentionné sur le panel du B-Side, c'est 100 000 par jour que ça peut coûter. Donc, ça peut être assez violent pour une moyenne entreprise d'une bonne taille. Ça peut aller pour des plus petites. Ça peut être la clé sous la porte. Donc, faites très attention sur ça. Et en même temps, c'est très important d'avoir une assurance cyber justement pour cette raison-là aussi.
Et je vais mentir, c'est que si, bon, on voit qu'un assurant, on l'a tous vécu cyber ou pas cyber, une assurance, si elle peut ne pas payer, elle va trouver le moyen de le faire. Donc, c'est évident que si vous avez menti sur le formulaire, elle vous attend au tournant. Ou si c'est pour mentir sur un formulaire d'assurance sans avoir absolument l'intention de faire ça demain matin comme requis ou d'avoir une discussion avec l'assureur, prenez juste le budget de votre que vous alliez payer en prime d'assurance et investissez-le en sécurité. Parce que payer une prime pour ne pas se la faire payer et pas hors de requis, dans tous les cas, une assurance ne vous protégera pas. De la même manière qu'on a tous une assurance à incendie dans nos maisons, je pense qu'il n'y a aucun de nous qui s'amuse à faire des feux de camp dans le salon. Parce que... Ou puis l'assurance, c'est pas grave. On veut pas que la maison elle brûle. Fait que mettez quand même l'assurance en cyber, c'est une garantie. Si jamais ça venait à mal se passer, c'est très le fun de l'avoir. Mais investissez de base. Et souvent les requis d'assurance. Vas-y Dominique.
Oui, non, je pense à ça dans la tête. C'est qu'il y a des gens aussi qui répondent au formulaire de bonne foi et qui répondent mal parce que c'est pas toujours évident. Si on se fait dire le MFA est bien mis en place puis que celui qui répond au formulaire dit c'est fait parce qu'il pense avoir ça, OK, il n'a pas dit la vérité ou il n'a pas dit la réalité. Je ne vais pas dire la vérité. Il a dit sa vérité, mais qui n'est peut-être pas la réalité. Donc, il y a aussi des gens qui répondent au questionnaire. Ils n'ont peut-être pas testé. Et puis là, j'entends Nicolas déjà rigoler qui dit, bah, effectivement, il y en a plein des gens qui ont des produits puis qu'ils n'ont pas configuré jusqu'au bout, par exemple, puis qui n'ont pas fait leur test.
Et ça peut changer aussi entre le moment où tu as rempli le formulaire et la vérité. Il y a quelque chose, changer une pratique, vous n'avez pas renouvelé une licence ou quelque chose. Dans le problématique avec les assureurs ou avec les fournisseurs en général, les RRP, c'est que souvent la personne qui administre le questionnaire n'est pas forcément un expert en sécurité. Donc eux, c'est pas mal oui-non, et c'est pour ça que c'est tentant effectivement de jouer un petit peu et de dire des oui-mais. Sauf que le premier constat, parce que là on parle beaucoup des problèmes et on parle pas beaucoup de solutions, donc on va essayer de vous en donner un petit peu. C'est malheureusement rarement le cas. Mais si vous avez des... Parce qu'il y a des RFP qui sont très impersonnels, mais des fois, on a une relation avec un futur client ou autre. Posez des questions. Sans dire non, essayez de comprendre le besoin. Vous seriez surpris, des fois, il y a des réponses. On a vu des cas où, justement, le client pensait qu'il fallait qu'il investisse des dizaines de milliers en plus pour juste répondre favorablement. En discutant, il n'y a plus clarification des besoins et ils ont réussi à s'entendre sur ce qui était réaliste. Fait que posez des questions. D'abord à la personne qui vous demande le formulaire. Si c'est encore trop compliqué, faites-vous accompagner par un expert. Quelqu'un qui va au moins vous permettre de vulgariser, de comprendre le jargon que vous répondez. Parce que c'est quand même important de savoir, c'est quand même des déclarations que vous faites. Est-ce que vous déclarez les bonnes choses? Et peut-être qu'il va aussi vous aider à dire, OK, tu dis non, que tu comprends pas les mots dans la phrase, mais peut-être que tu as quelque chose en place qui correspond à la question.
Ça rejoint le point de comprendre l'intention. Pourquoi est-ce que la question est posée? On parlait, OK, est-ce que vous avez mis votre DKIM, votre SPF? La question, c'est pas techniquement, est-ce que vous avez juste fait ça? Oui, ça va valider, mais le point, c'est est-ce que vous avez une protection contre le phishing? Comment est-ce que vous faites? Et si vous faites peut-être du training, peut-être que vous avez un anti-spam que vous avez rajouté, peut-être que vous avez des outils, ben, ça va aider à bonifier le « on le sait pas » ou peut-être « oui, mais ». Ça va vous aider à le bonifier, à bonifier la réponse, en comprenant l'intention. Et c'est parfois ça qui est relativement compliqué. Et puis, on ne peut pas demander à tous les gens qui remplissent des formulaires de pouvoir le faire. Et puis, je demanderais peut-être aussi aux gens qui lisent des formulaires, les réponses des gens, de comprendre aussi l'intention de la question qui a été posée pour ne pas être un juge intransigeant à éliminant et faire un calcul qui est purement mathématique sur le niveau de la réponse, parce que ça éliminerait des fournisseurs qui feraient très très bien leur affaire et qui sont largement qui démontrent un niveau de sécurité qui est largement acceptable pour pouvoir commencer à travailler avec eux.
Moi, je deal moins avec ça dans le day-to-day, tu sais, comme plus Cindy qui a la chance ou Dominique qui a la chance de gérer ce genre
mauvais
de
choix, mauvais choix de mots.
Mais des fois ça arrive, je vais être impliqué parce que c'est des questions qui sont un peu plus techniques ou quoi, puis ça m'est arrivé, je sais pas combien de fois, là, comme je lis une question technique, clairement pas faite par quelqu'un de technique, je suis comme, sa question fait pas de sens. Genre, sa question fait juste pas de sens, comme, clairement, il a essayé de poser une question technique qui était pas technique, fait qu'après ça, c'est ça, comprendre l'intention derrière la question, puis d'être capable de mapper comme, OK, on pense qu'il voulait dire ça, nous, on a ça en place, c'est probablement ça qu'il voulait dire, puis être capable de mettre les bouts ensemble, puis pouvoir... pour répondre quand même à la question avec ce qu'on a en place. Puis,
Et si ça vous arrive quand même souvent de vous faire challenger par des gros donneurs d'ordre, c'est malheureusement pas une règle absolue, mais je connais beaucoup de compagnies qui ont fini par chercher une certification de sécurité comme on parlait dans le dernier épisode, parce que dans beaucoup de cas quand même, si tu arrives avec ce bout de papier-là, tu peux t'éviter soit toutes les questions ou alors tu as un questionnaire simplifié. C'est pas systématique là, mais... Malheureusement, il n'y a jamais de moyen à 100% de les enlever. Les assureurs, par exemple, je doute qu'ils prennent ces certifications, ils vont poser leurs questions pareil. Mais ça peut quand même être un passe-droit si vous êtes dans un domaine d'activité où chaque client vous le demande. Parce que mine de rien, une certification, on le sait, c'est cher, mais répondre à ces questionnaires, ça prend énormément de temps. Et on a vu des formulaires à 140 questions, 3-4 onglets Excel, des questions qui en finissent plus. Si tu as à faire ça assez régulièrement, ben convertis ce temps de personnes-là en temps pour acheter une certification sur 2-3 ans, ça peut être rentable potentiellement.
Si vous avez des amis qui ont des entreprises ou que vous avez du monde dans votre LinkedIn, c'est comme si vous êtes propriétaire de PME qui devait faire face à ça, là, allez voir d'autres gens dans votre réseau, puis il y a sûrement d'autres gens qui ont résolu ce problème-là, puis c'était quoi le feedback que tu as eu, c'était comme aller poser des questions aux gens aussi, là, comment tu as fait pour répondre au formulaire, comment tu as dealé ça, puis juste aller prendre l'expérience de d'autres personnes. Je pense que ça va vous aider à vous guider aussi, puis après ça, mettre les bonnes choses en place pour pouvoir traverser ça.
Oui, absolument. Justement, d'aller chercher de l'aide, parce que si vous vous lancez seul dans cet élément-là, il va y avoir des soucis, vous allez avoir peut-être des problèmes. Vous allez peut-être mal répondre, donc pas arriver au résultat voulu. Aux assurances, par exemple, vous avez peut-être des primes plus élevées ou vous n'avez pas bien saisi, ou avoir des pénalités lors d'un incident. Faites-vous accompagner. L'exemple de Nicolas est très bon. Dans votre réseau, c'est sûr que d'autres compagnies qui ont eu à répondre à ça. C'est un chemin malheureusement obligatoire pour la plupart des gens maintenant. On s'en sort plus. Ça fait partie de la vie. Donc, d'aller dans ce réseau-là est déjà une bonne étape. Sinon, aller chercher des experts. J'en ai autour de la table là qui, justement, l'en font régulièrement. Heureusement ou malheureusement, là, tout dépendant comment Cindy et Nicolas réagissent par rapport à ça, mais qui sont plus familiers et comme ils en font souvent, vont y répondre beaucoup plus rapidement et plus efficacement que quand c'est une première fois. Là, c'est long, c'est pénible, ça fait mal. C'est comme aller chez le dentiste, on ne veut pas le faire vraiment, puis là, on souffre le martyr. Donc, d'éviter ça, si vous pouvez vous consulter quelqu'un qui peut vous aider. Je vous laisserai le mot de la fin.
Je pense que le dentiste, c'est moins pire.
Ouais, je pense que le dentiste, c'est moins pire. Encore désolé. On sait que ce sujet, il est plate. On n'apporte pas vraiment de solution ou de miracle, mais c'est malheureusement, hein. Ça part d'une bonne intention, parce que là, on tape beaucoup sur les formulaires. Les entreprises veulent peut-être de garantir, hein, de se protéger, justement, de faire affaire à des compagnies qui pourraient être une entrée. Donc, ça part d'une très bonne intention, mais encore une fois, l'exécution, est problématique, mais je veux pas non plus qu'on balance les formulaires. Les compagnies ont raison et vous devriez d'ailleurs challenger vos propres fournisseurs aussi sur leur sécurité. Essayez de penser à eux, par exemple, et de pas leur faire un formulaire qui finit plus, que vous allez même pas lire. Parce que souvent, c'est ça le problème, c'est qu'ils sont même pas tellement analysés. Mais ça n'a pas une bonne intention, mais c'est malheureusement pas une faute.
Comprenez l'intention derrière les questions, aussi bien pour celui qui pose la question que pour celui qui répond. Je pense qu'on y gagnera tous à clarifier et puis à avancer correctement.
Merci.
Merci. Bientôt. Bye bye. Yeah.